One, two, three, ho!
Donc pas de soudure sur bambou alors?
Eh non, il aime pas trop être chauffé à 800 000 degrés le bambou.
Ah bon, d'accord, ok. Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et le brouhaha que vous entendez, c'est parce que on est en plein festival, il y a plein de monde, ça gigote dans tous les sens. On est au Cyclo Camping International. J'aime bien le dire avec un accent américain,
ça va très bien, Eric.
Alors, on va avoir plein d'invités et on va commencer avec Arnaud Cyclopathe. Comment ça va, Arnaud ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va. On a Tata Alex. Ça va, Tata ?
Hello ! Si quelqu'un veut apporter une glace, c'est avec plaisir.
Et les chroniqueurs, pour ce début d'émission, on sera avec Camille. Ça roule, Camille ?
Ça va très bien.
Et le beau gosse de service,
oh,
Simon !
Non, mais non, merci, merci, Eric. Non, j'en mérite pas tant.
Il est célibataire ?
Oui, il est célibataire.
Oh, elle vend très très bien le dossier, Camille.
Alors, on va commencer par toi, Arnaud. Alors, tu as un nom atypique, je ne l'ai pas dit en entier.
Cyclopathe Brunien.
Alors oui, je m'appelle Cyclopathe Brunien, cyclopathe parce que je suis un petit peu malade de vélo depuis très longtemps, puisque j'ai fait mon premier voyage à vélo en 1984. Et Brunien, en fait, c'est le mouvement d'une molécule dans de l'air ou dans de l'eau. Et c'est un mouvement qui est totalement déterminé par toutes les interactions avec les autres molécules autour, mais qui est beaucoup trop complexe pour être mis en équation et on ne peut pas le prévoir. Et donc il est, comme moi, aléatoire en apparence.
J'adore les gens imprévisibles, moi, j'adore.
Moi, je croyais que ça avait rapport avec le brownie, en fait, j'ai rien compris.
Moi aussi, non, mais je pensais que c'était le gâteau.
Tu croyais que je fais bouffer,
Denis
Brognard, mais en fait, parfois,
donc rien à voir.
Pas.
Par contre, peut-être pas direct avec le brownie, mais avec la bouffe, si j'ai bien compris.
C'est clair que ma passion, c'est la cuisine, aussi bien à la maison qu'en bivouac, et que j'espère que l'année prochaine au festival, je viendrai avec un bouquin. Ici, j'ai juste avec moi la maquette, le projet du bouquin.
Arnaud a fait un grand voyage à vélo récemment. Tu es parti jusqu'à Istanbul, c'est ça ?
Oui, presque jusqu'à Ankara, en deux fois. Je suis parti 5 mois la première année, puis 4 mois la deuxième, en laissant mon vélo en Roumanie entre les deux pendant l'hiver.
Ouais.
Et voilà, et j'ai cuisiné sur la route, et j'ai été à la rencontre des gens qui cuisinaient sur la route. Donc essayer de rentrer dans les cuisines privées et aller choper les recettes des gens. Et
ça c'est génial, parce qu'il y a un stéréotype du voyageur à vélo, c'est qu'il part, il mange toujours froid. Il mange sur le pouce, il mange des sandwichs, il mange des chips ou il va au resto avec sa carte bancaire, voilà, il voyage avec sa carte bancaire. Et toi, tu casses tout ce cliché. Dis-moi les objets les plus improbables que tu as pu apporter en termes de cuisine.
Alors l'objet le plus improbable, c'est un truc qui sert à rien parce que ça se remplace par une bouteille de bière vide. C'est mon rouleau à tarte.
Voilà.
Il pèse 99 grammes. C'est mon meilleur ami qui l'a fait la veille de mon départ. Et c'est le poids de l'amitié, 99 grammes.
J'adore.
Je l'ai avec moi et j'utilise régulièrement pour faire des petits pains plats, des chapatis à la mode indienne. J'aplatis mon pain, de la pâte à pain et puis je la cuis à la poêle à sec et ça fait des pains. Et quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et surtout quand on ne parle pas la même langue, le pain c'est un langage universel. Vous faites du pain, vous le partagez au bivouac avec d'autres gens et c'est génial, ça marche.
C'est vrai.
Je crois que c'est même l'origine du mot copain, compagnon, c'est celui avec qui on partage le pain. C'est beau ce que tu dis.
Exactement, c'est exactement
ça.
C'est
ça, le pain c'est la vie. Ce que j'aime bien chez Arnaud, c'est qu'il prouve qu'on peut bien manger à vélo. Alors est-ce que ça représente beaucoup de poids ? Est-ce que c'est contraignant ? Est-ce que c'est beaucoup de temps ? Ou est-ce que c'est possible ?
Oui, ça prend du temps. Alors chez moi ça prend du poids parce que j'ai mes petits gadgets et j'ai des choses qui sont parfaitement pas indispensables. Et puis j'aime bien avoir mon petit confort et des choses dont on peut se passer. Mais le bouquin que j'ai écrit, c'est un bouquin de recettes. La majorité des recettes nécessitent une popote avec un couvercle et un petit réchaud à gaz.
Ouais.
Ça suffit.
Même
si j'aime pas le gaz, ça, tout le monde peut le faire.
Ouais.
Avec un peu d'imagination et un peu de fantaisie, il n'y a rien qui est interdit, sauf mal manger.
Et tu penses que le réchaud à gaz, c'est ce qui est le plus pratique pour voyager dans tous les autres pays ? On peut trouver du gaz facilement ?
Moi, je ne suis pas fan du réchaud à gaz parce que je trouve que ça génère pas mal de déchets.
Ouais.
Entre autres, on est passé à la mode des bonbonnes jetables.
Ouais.
Et moi, je cuisine à l'essence avec un réchaud assez lourd, mais on fait plus léger maintenant, mais mon réchaud, il a 15 ans.
Et l'essence, on en trouve partout.
Oui, voilà, ouais. L'essence, on en trouve partout. Et puis, il faut être cycliste pour le dire, mais l'essence, ça coûte pas cher.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'avec un litre d'essence, je fais presque un mois. ouais. de cuisine tous les jours en me faisant des risottos et en me soignant.
C'est rigolo, un cycliste
qui
va à la pompe à essence.
Ah oui, ça a créé, en Roumanie, en Turquie, ça a créé des quiproquos pas possibles. Ah, j'arrive avec génial. Mon bidon et mon vélo, les mecs ils comprennent plus rien. Quoi.
Le molotov, le truc.
Je fais le plein, les gars, je fais le plein.
Alors tu leur as fait découvrir des spécialités françaises quand tu es allé sur place et eux, on va dire, te cuisiner des spécialités turques.
Ben, je fais pas spécialement des spécialités, mais je m'inspire des cuisines du monde et puis des produits que je trouve. Donc j'ai jamais de recette au départ. Quand il était petit à la maison, mon gamin il me disait souvent « Papa, qu'est-ce qu'on mange ?» Et puis je lui disais « Je sais pas ». Et il me répondait « Mais t'es déjà en train de cuisiner, tu sais ce qu'on va faire ?» Ben non, je sais pas, j'improvise.
Et c'est comme ça que je cuisine au fur et à mesure de l'action.
Tout le temps. C'est brownien, j'ai dit tout à l'heure.
Un peu, voilà, tu vois.
Brownien, aléatoire en apparence. Ouais.
Sur ton stand, on trouve des bocaux avec de la poudre dedans, on dirait un truc de sorcier, mais décris-nous ton stand, qu'est-ce qu'il y a dessus ?
Oui, mais il t'a appelé Panoramix tout à l'heure, avec la barbe.
Ah oui, voilà, elle nous a dit « je cherche Panoramix ».
Je cherche Panoramix.
D'accord. Alors, ce que j'ai sur mon stand, j'ai des œufs.
Attends, t'as dit stand, tu es de Belgique ?
Oui, je suis de Belgique.
Ah,
oui.
Ah, ouais. Depuis le départ, t'as pas entendu, toi.
J'ai pas tilté.
J'ai des œufs séchés, donc je fais 48 heures dans du sel, des jaunes d'œufs. Et puis après ça, je les sèche à l'air libre et je les râpe. Alors ça n'a pas énormément de goût, mais c'est un excellent complément alimentaire.
Ah oui, moi je croyais qu'il y avait de la langue de varan, des trucs...
Non. Alors le dernier petit délire, j'ai fait des cubes de bouillon maison. J'ai réduit un litre de bouillon asiatique en 4 glaçons. Et puis j'ai fait sécher mes glaçons. Et ça, il suffit de les réhydrater comme un cube de bouillon commercial. La ouais. seule chose, c'est qu'il n'y a pas de merde dedans, il n'y a pas de conservateur débile, il y a juste du sel, des légumes et des épices. Quoi. Voilà.
Et ça te permet d'avoir plein de petites choses à manger en voyageant léger. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est des choses que je fais quand je pars 3 semaines, par exemple. Parce qu'évidemment, sur un voyage de 5 mois, ben, on n'emmène pas des cubes de bouillon pour 5 mois, ça n'a pas ouais. de sens. Donc là, quand je suis sur du long... Je cuisine avec ce que je trouve sur la route, mais quand je pars 3 semaines, ben, je prends mes œufs séchés, je prends mes algues, je prends mes petits cubes de bouillon, je prends de quoi me faire plaisir et bien manger.
Alors Arnaud le cyclopathe brownien, où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet mondial ?
J'anime un groupe Facebook qui s'appelle Bivouac et bien manger, cuisine en voyage léger. Et sinon, mon pseudo cyclopathe brownien, c'est moi sur Facebook.
Ok, ça marche. Alors, on a une autre invitée. Tata Alex, comment ça va ?
Ça va bien. Alors, moi, cette histoire de glaçons séchés, ça m'intrigue. Parce que, du coup, est-ce qu'on peut faire des glaces séchées, déshydratées et se les réhydrater en plein voyage ? Ça devient intéressant, du coup.
Des glaces chaudes.
Si le druide trouve quelque chose, ça m'intéresse.
Ben, je pense qu'il va falloir appeler Blandine Dupuy, qui a voyagé par des moins 40. Et okay. du coup, on va pouvoir faire des glaces en voyage.
Alors, Tata Alex, tu as fait surtout 2 grands voyages et un premier livre tiré de ton premier voyage. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier voyage, de ce livre ?
En fait, alors moi, je dirais même que j'en ai fait 3, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait 2 livres sur les... Enfin, un livre sur chaque grand voyage en Europe. Mais avant les voyages en Europe, il y a eu un voyage en France. J'ai fait 3 mois de Tour de France, ce qui a été pour moi, en fait, la jeunesse des voyages qu'on suit, parce que ça m'a permis de prendre confiance, etc. Et c'est là que je me suis dit, OK, tout va bien médicalement, tout va bien mécaniquement. Donc, je suis capable de partir plus loin. Donc en fait ma base ça a été vraiment 3 mois 5000 km en France en 2020 entre 2 confinements et 2 opérations de reconstruction du sein aussi, puisque mon histoire elle commence sur un cancer du sein en 2018, c'est là que je me lance dans le vélo. Moi ça faisait 15 ans que j'avais pas fait de vélo et encore 15 ans avant ça se résumait à aller de la maison au Super U pour faire des courses, voilà. Donc j'ai jamais été une cycliste. Tout à l'heure on m'a demandé si dans ma famille il y avait des cyclistes. Pas du tout, on n'est pas du tout.
Quoi, on n'a pas besoin d'être sportif.
Et surtout pas sportif. Voilà. C'est au-delà du vélo, on ne fait pas de sport dans la famille. On n'est pas du tout éduqué comme ça.
C'est un bon message.
Voilà. Par contre, on est éduqué à bouffer. Voilà, la base, elle est là. Et donc voilà. Et donc je rencontre un mec pendant mon cancer. On tombe amoureux et il me promet de m'emmener en Roumanie sur mon vélo une fois que les traitements seront terminés. Donc moi j'achète le vélo parce que je suis folle amoureuse et je suis sûre que c'est l'homme de ma vie puisqu'il tombe amoureux alors que j'ai pas de cheveux et pas de sourcils. C'est forcément l'homme de ma vie, c'est sûr. Et voilà, et j'achète le vélo et le vélo reste. Le mec ne revient jamais. Je suis toujours célibataire. Salut.
Regarde Simon.
Je ne sais pas pourquoi ce regard.
Et donc voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à partir toute seule en Roumanie, du coup sans mon Felipe, mais avec mon vélo, avec ma bicyclette Jeannette. Et donc en fait, je suis partie en Roumanie parce que c'est ce qu'on avait prévu avec Felipe et la Roumanie parce que moi j'habite à Nantes et que je suis presque sur le démarrage de l'Eurovélo 6. Et qui est donc réputée comme plus facile puisqu'elle suit plus ou moins les rivières, qu'elle est bien balisée, bien fléchée. Et voilà, et pour un débutant, en tout cas qui part en Europe, c'est quand même un itinéraire les plus simples.
Et c'est assez plat ?
Là, au moins, jusque dans l'Iron Gates, jusque, je pense qu'à peu près, ouais, jusqu'en Serbie, avant ça va. Donc, globalement, voilà, ça dépend.
D'accord.
Donc voilà, et j'ai fait mon retour par la Grèce, la Croatie, etc. Donc ça, c'est 2021, duquel j'ai sorti un tome 1, effectivement, qui raconte mes aventures au jour le jour en journal de bord, qui reprend les recettes de cuisine qu'on m'a cuisinées quand je suis allée chez les gens, parce que moi, mon style de voyage, je pense complètement à l'opposé d'Arnaud, je pense. C'est moi, je suis 80% du temps hébergée chez les gens, en warm shower, principalement. Donc du coup, bah, moi, je raconte dans mon livre ce que les gens ont fait chez eux pour moi, en fait. Hein. Moi, j'aime bien bouffer, je suis moins dans la cuisine, quoique plus chez moi, mais... Et donc du coup en 2022 je suis repartie après être rentrée de ce voyage. Je suis rentrée en novembre 2021 et après ça il y a eu Noël, et à Noël mon neveu m'a dit ouais de toute façon Père Noël il n'existe pas, gna gna gna, c'est toi le Père Noël, tu m'as acheté des cadeaux. Bon bref, grosse embrouille avec mon neveu, j'ai dit bon allez, on va monter en Laponie, on va lui prouver que le Père Noël existe vraiment.
Ça,
donc la deuxième destination était toute trouvée, donc je suis partie en Laponie. Mais en fait la Laponie ça s'est fait en 2 mois quoi, je suis arrivée très très vite. Je suis passée par l'Irlande, par le Pays de Galles, etc. Ouais. Et arrivée en Laponie, en fait, le truc, c'est qu'au-delà, bon, c'était un peu une blague avec mon neveu, hein, mais au-delà de ça, j'avais besoin de me dépasser. En fait, j'ai presque trouvé que le voyage de 2021 était un peu trop facile, notamment parce que je suis passée par l'Eurovélo 6 et que c'était... ça déroule, quoi. Hein, voilà. Mais j'avais besoin de challenge parce que la Roumanie s'était posée avec Felipe, c'était vraiment un challenge posé pendant mon cancer. La Laponie, c'était vraiment aller taper dans les limites, me dépasser et sentir que mon corps était vivant, mais en me faisant mal, en fait, quoi.
Ouais.
Bah, du coup, Pays de Galles, du coup, vent dans le face en Irlande, du coup, je vais me faire des côtes, je monte en Suède, je suis obligée de rouler sur l'autoroute. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus de dépassement général. Et donc, après la Laponie, je suis descendue jusqu'en Toscane et c'est là que j'ai morflé le plus dans les côtes, quoi.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des projets encore de voyage, là?
Alors là, du coup, je suis repartie dans le salariat. Ça faisait 5 ans que ça m'était pas arrivé, donc c'est d'une violence inouïe.
Ouais,
je suis pas sûre que ça va être un projet que je vais continuer longtemps, à mon avis. et il y a plusieurs choses qui trottent. Il y a notamment Istanbul qui est dans ma tête. J'ai regardé beaucoup de séries britanniques pendant l'hiver, donc je reste branchée très 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 Grande-Bretagne, Écosse, etc. Ça me chatouille, mais et puis c'est pas loin, c'est pratique.
Ouais.
Donc ça me chatouille énormément, et j'ai ma nièce qui vient de partir à Montréal et je me dis
c'est
quand même plutôt cool. J'ai une copine au Texas, etc. Donc pourquoi pas se faire un truc un peu sympa aux États-Unis, quoi.
Okay.
Est-ce qu'on progresse en langue quand on fait autant de voyages comme toi? Est-ce que tu as pu découvrir des langues étrangères?
Moi, je suis pas un bon exemple parce que je parlais déjà anglais en fait avant de partir. En fait, moi, comme j'étais pas sportive avant, bah du coup, par contre, j'avais déjà la graine du voyageur. Ça, j'étais déjà ancrée. Et j'étais pas sportive, donc je faisais beaucoup d'avions, avions, car-train. Et du coup, bah j'avais beaucoup voyagé. J'avais fait un tour du monde d'un an et demi autour du monde. Hein, c'est comme son nom l'indique. et puis j'avais été expatriée un an au Canada. J'avais baroudé 3 mois en Amérique centrale, etc. Donc si tu veux, et puis surtout j'ai daté un Brésilien qui habitait aux États-Unis pendant 2 ans. Donc le date, c'est super. Du coup, j'ai pu apprendre l'anglais parfaitement
avec
mon Brésilien. Quoi. Donc voilà. Donc moi, j'étais déjà bilingue en partant, en fait. Donc pour traverser de l'Allemagne, du coup, j'ai fait appel à mes 15 ans d'apprentissage d'allemand qui était très très loin, voilà, que j'ai pas pratiqué depuis longtemps. Mais voilà, ouais, l'anglais, je suis bilingue, donc.
Ouais, donc c'était pas une barrière.
Non, c'est une barrière en Roumanie par exemple, on parle moins anglais, ouais. En Bulgarie, en Grèce, voilà. Là.
En même temps, le roumain, ça s'apprend en 3 semaines.
Mais par contre, c'est un véritable.
Avec un peu d'esprit de jeu de mots, le roumain, c'est tellement de mots français que moi, en 3 semaines de voyage à vélo en Roumanie, mon premier voyage en Roumanie, c'est le pays dont je suis amoureux en Europe. J'y ai passé 80 semaines de ma vie. Après 3 semaines, quand je suis arrivé à Bucarest et qu'on m'a parlé en anglais, j'ai bugué. Parce que ça faisait 3 semaines que je me débrouillais en roumain dans les restos et dans les hôtels.
T'écoutes aux zones avant de partir et c'est parfait.
Ouais,
hein,
c'est ça.
Tata Alex, j'allais confondre avec quelqu'un d'autre. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux?
Moi, c'est Facebook, Instagram, Adventures of Tata Alex. Voilà, tout
et
simplement.
Bah, très bien.
Voilà.
Alors, on va prendre un peu de distance. On retrouve Xavier qui fait Madagascar, Afrique à vélo. Il est parti pour 2-3 ans de voyage. On était resté au dernier épisode où il cherchait un bateau pour quitter Madagascar et relier le continent. Va-t-il y arriver? Vous le saurez en écoutant ce nouvel épisode de Mort Africa.
Le teasing.
Tanzanie! Hello Pause Vélo, ça y est, je suis enfin arrivé sur le continent africain après un peu plus de 2 mois de voyage déjà, et c'était pas toujours facile. À mes dernières nouvelles, j'étais à Nosibé où ma recherche de voilier pour l'Afrique du Sud n'a pas abouti. Je suis donc redescendu à vélo à Majanga, qui est une petite ville portuaire un peu plus au sud, et ici j'ai pris un petit bateau cargo qui emmenait des marchandises et des passagers aux Comores. Donc j'ai fait 2 jours de traversée pour atteindre les Comores. Et là, j'ai découvert l'accueil des Comoriens qui est assez fantastique. J'ai demandé à la première personne qui déchargeait les marchandises du bateau où est-ce que je pouvais poser ma tente pour quelques jours. Et il m'a tout de suite invité chez lui, le temps qu'il fallait. Et 4 jours plus tard, j'étais en boubou traditionnel, invité à la cérémonie du Droumé, qui est la cérémonie d'avant-mariage où la famille du père annonce la date du mariage à la famille de sa tante, en l'occurrence. Donc j'ai passé 12 jours aux Comores où j'ai attendu le prochain bateau pour Dar es Salaam en Tanzanie, parce que les Comores en fait ne produisent pas grand-chose sur leur territoire, donc ils importent énormément de produits de Madagascar ou de Tanzanie. Et là, donc, le bateau était vide de marchandises et on a fait un peu plus de 48 heures en mer pour atteindre Dar es Salaam avec des conditions un peu routes, mais j'étais tellement content d'arriver sur le continent africain. Et maintenant, il me reste plus qu'à pédaler les 20 000 km qui me séparent de la France et je vais prendre la direction du Malawi, de la Zambie, du Botswana pour après longer la côte atlantique pour remonter en France. Voilà, allez, ciao ciao.
On retrouve Mort Africa dans 15 jours pour un nouvel épisode de ses aventures. On est toujours au festival du cyclo-camping international et après avoir eu des voyageurs, maintenant on va causer matos. On est avec des cadreurs et je crois que tu es mieux placé que moi, Mika, pour présenter nos invités.
Bah écoutez, les présenter, je pense qu'ils vont le faire eux-mêmes. Mais en tout cas, ouais, j'avais vraiment à cœur de qu'on puisse travailler sur les cadreurs artisanaux. On avait fait notamment une chronique sur le concours des machines. On va pouvoir en parler. Il me semble que vous avez tous les trois participé, tous les deux sur trois. Deux sur trois ont déjà participé. Et du coup, on est en présence donc des cadreurs donc de la marque Coca. Si je dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais. Coca, Q-O-2-K-A.
Ça marche.
Brivel, alors on va ton prénom, parce que Brivel, c'est breton, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ok.
Donc on a Coca, on a Kidam.
Kidam, ouais, c'est ça.
Et Kidam, le dernier cadreur, Gamori.
Donc moi, c'est Louis de Gamori Cycle.
Gamori Cycle. C'est des cadres en bambou, ça c'est cool.
Voilà, c'est pour ça que c'était important aussi, c'est qu'on sait qu'on travaille aujourd'hui plein de matières, le carbone, l'alu, l'acier, l'inox, le titane, le bambou, le bois, et j'en oublie sans doute. Et je sais pas si chacun peut un peu présenter sa marque, et sur quel matériau et quel type de vélo, parce qu'il y a autant de matériaux que de types de vélo, voire même encore plus.
Pourquoi c'est mieux de travailler avec des gars qui font des cadres artisanaux plutôt que des grosses chaînes? Pourquoi? Je suis méchant, là, je m'emporte.
On va peut-être déjà les laisser présenter un peu leur marque.
On va commencer par se présenter.
Ouais, bien sûr.
Donc, moi, je m'appelle Brivael, je suis cadreur artisan... PDG, secrétaire, balayeur de mon atelier Coca Cycle. Ça fait 1 an et demi que l'atelier est monté maintenant. Moi, ça fait 5 ans et demi que je suis cadreur. Ouais, j'étais passé par les Compagnons avant et puis j'ai passé 4 ans chez Sifac. Et puis en 2022, j'ai décidé de partir pour diverses raisons. Et surtout, la raison principale, c'était que je voulais me mettre à mon compte et proposer des choses qui me ressemblent à travers les modèles et les vélos que je fabrique. Moi j'ai une grosse affinité avec le cadre de piste à la base, donc je sais qu'ici c'est pas trop la mode, mais
voilà. Sifac en a fait pas mal aussi
à l'époque dans les années 90. Ouais, après moi c'était pas forcément la référence en termes de cadre de piste, mais j'ai une gamme de 6 modèles. Sur ces 6 modèles là, j'en ai 3 qui sont étudiés pignon fixe.
Okay.
Donc après je fais aussi de la route, du gravel, et après on peut vraiment partir sur du sur-mesure, de la randonneuse, du vélo de triathlon, enfin voilà, tout ce qui est contre la montre.
Mais pas de limite.
Non, tout est possible, tant que ça reste de l'acier ou de l'inox. Après,
donc on en vient à la matière, donc toi tu travailles acier-inox.
Acier-inox, on peut faire des collages avec du carbone. Voilà.
Pas d'alu.
Non, pas d'alu, moi je fais vraiment... Des matériaux un peu plus nobles, un peu plus rigides, qui durent mieux dans le temps, parce que l'aluminium, au bout de 20 ans, ça a tendance à se ramollir un petit peu. Et puis, c'est surtout qu'à travailler l'aluminium, c'est une tannée. Donc, moi, c'est pas forcément ce qui me faisait envie, en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir de leur gond quand je vais leur dire que l'aluminium, c'est pas bien. Mais moi, c'est pas forcément ma vision des choses. Et c'est pour ça que je suis resté sur l'acier. Ouais.
Et Marc, toi, qu'est-ce que tu fais?
Je fais des cadres sous la marque Kidam Cycle. Je fais des vélos du sur-mesure avec des vélos, en fait, avec des bases. Ce que j'ai envie de faire, c'est des vélos de voyage, des vélos d'aventure que j'appelle. Donc ça va être des vélos de voyage, de trekking, de gravel, de bikepacking. C'est ce que je pratique, c'est ce que je connais, et c'est ce que j'ai envie de proposer du coup. Après, si j'ai une demande sur un VTT très spécifique, je peux aussi y répondre. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Je viens de débuter l'été dernier. J'avais fait quelques formations chez des cadreurs. Je me suis formé tout seul dans mon garage avec des essais de soudure, de géométrie. J'avais fait une draisienne pour commencer pour mon petit neveu, pour m'entraîner. Et donc voilà, ce que je propose, je travaille l'acier aussi. En soudo brasé, comme le collègue en parlait, je trouve ça assez noble. Il y a une finesse dans les tubes, je trouve ça tout simplement beau, un cadre en acier. Il y a un comportement aussi qui est tout autre qu'un cadre en alu. Sur de la longue distance, il va pouvoir filtrer les impuretés de la route, du terrain, qu'on n'aura pas sur un cadre alu qui va tout nous retransmettre. Le carbone, j'en parle pas, c'est un peu différent, on peut avoir différents comportements, mais... Donc voilà ce que je fais du cadre acier sur mesure.
Et la
du vélo d'aventure.
La réparabilité de l'acier.
Et la réparabilité aussi, ouais.
Surtout sur mon stand, j'ai
un. Ouais, voilà. Sur mon stand, j'ai un gravel Genesis, ouais. Sur lequel le triangle avant a été plié parce qu'il y a une voiture qui l'a fauché. Donc on a pu, bah, évidemment, changer.
Et il a été rebaptisé Kinesis.
Le Kinesis, voilà. Kinesis. Un mélange entre les deux entre les deux marques, Kidam et Genesis.
Et question de néophyte, en fait, comment vous travaillez? Vous recevez des plaques en acier et vous les roulez pour faire les tubes? C'est comment? Vous avez déjà des tubes avec une certaine dimension? Là, je vous fais marrer parce que je suis vraiment un gros débutant. Comment vous faites, en fait, concrètement?
En fait, on achète des tubes bien spécifiques, des tubes qui ont un diamètre spécifique. Un tube de sel va être un tube de sel, il ne va pas pouvoir être un top tube parce qu'on a les diamètres spécifiques pour l'emmanchement de la tige de sel. On a la variation d'épaisseur en fait sur tout le long du tube. Au niveau des soudures, on a des épaisseurs un peu plus importantes. Selon les gammes, on va être à 0,9, 0,07. Et puis le tube va s'amincir au milieu de sa longueur, pardon, pour l'alléger, pour lui donner un comportement tout autre, amener du dynamisme au vélo. Et voilà. Donc c'est des tubes qui sont extrudés. Il n'y a pas de soudure. C'est pas une tôle qu'on vient rouler et soudé après, ou du tube extrudé qui a un comportement tout autre. Moi, je travaille avec du chromo, majoritairement chez des Datshai. Après, je sais pas...
Ah, vous n'êtes pas forgeron avec un marteau et une enclume?
Non, d'accord.
Il y a différentes marques qui sont assez connues. Ah. Chez
oui, c'est ça. Il y a Columbus, des Datshai, Reynolds.
Les tubes Reynolds.
Après, voilà, aujourd'hui, les leaders du marché, c'est Columbus. Mais moi aussi je bosse pas mal avec des Datshai pour le coup, parce qu'il y a aussi la question d'approvisionnement. Enfin voilà, ça c'était un gros débat d'il y a un an ou deux, mais comment on va faire pour avoir des tubes. Aujourd'hui ça va mieux, mais voilà, il y a des DA, ils arrivent à proposer des choses légères. Moi sur mes modèles, c'est pas rare d'avoir des tubes à 0,4 mm au milieu, là, comme ce que tu disais. Voilà, il y a vraiment un renfort au niveau de la soudure à l'extrémité du tube et au milieu une finesse qui lui apporte de la légèreté tout en gardant de la rigidité, parce qu'on a des alliages qui sont plus modernes qu'à l'époque aussi. Quoi.
C'est ce qu'on appelait en aluminium le double buté.
Ouais, c'est ça. Bah, double, il y a du triple aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Ouais.
Alors, une petite question de néophyte aussi. Ouais. Combien de temps pour faire un vélo? Parce que vous avez peut-être chacun votre...
Quand on dit faire un vélo, ça veut tout et rien dire. Parce qu'il y a un vélo qui peut avoir une géométrie standard et il y en a... Enfin voilà, on va juste vendre un cadre. Il y en a... on arrive, le client arrive, il nous dit bah, « je sais pas trop ce que je veux, je fais telle pratique, j'aimerais telle taille de pneu, j'ai ce vélo-là qui est pas trop mal, après je peux aller faire une étude posturale si vous voulez. » Voilà. Et là, quand il faut tout reprendre, et c'est souvent plus le cas comme ça, de reprendre à zéro, de refaire un plan, de faire un design pour la peinture, de faire la fabrication, les finitions, le montage, etc. En fait, il y a un cadre à fabriquer. Moi, c'est entre 15 et 35 heures. Un vélo complet à fabriquer, c'est entre 50 et 250 heures. Voilà, après, il n'y a pas de limite, hein, c'est toujours pareil.
Vous allez même jusqu'à vous occuper de la peinture, c'est-à-dire que on peut vous demander un design spécial sur...
Je fais sous-traiter ma peinture. J'ai quelqu'un qui est à côté du Mans d'ailleurs, qui travaille extrêmement bien. Il travaillait dans l'automobile, il est carrossier de profession et c'est quelqu'un en qui je donne toute ma confiance. Moi, je lui apporte les teintes,
les codes références, les codes couleurs, les designs, les spécifications de bah, telle couleur, elle va tant de centimètres, etc. Enfin voilà, tout ce qui fait la peinture d'un vélo.
Donc en fait, c'est comme les voitures. C'est la si même tu chose. Veux tuner ton vélo, en fait, tu peux arriver avec un vrai schéma, un dessin, et vous y collez parfaitement.
Quand monsieur ou madame Intel va rentrer dans une concession, veut acheter une voiture, bon, ce qu'on recommande pas parce que nous, on fabrique des vélos, et va dire, bon, bah, je veux que mes sièges soient de telle couleur, mes jantes soient comme ça et ma couleur de la voiture soit comme ça, bah, nous, c'est pareil. Monsieur ou madame va arriver en disant, bon, bah, je veux tel composant, telle peinture, et ensuite, y a aussi la touche de l'artisan. Et c'est pour ça que nos clients viennent chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Enfin voilà, chaque client a ses affinités avec chaque artisan et c'est ça qui nous permet de proposer notre marque et notre identité et nos détails, etc. et notre savoir-faire. Enfin voilà,
c'est toujours plus classe d'avoir un vélo personnalisé, unique.
C'est toujours plus sympa et c'est surtout que c'est un vélo souvent, peu importe le matériau, on va l'emmener le plus loin possible, on va le garder une, deux, trois dizaines d'années. Enfin voilà, peut-être qu'on va le passer à la génération suivante. Donc c'est-à-dire que les vélos aujourd'hui, les vélos sur mesure, voilà, ils ont une durée de vie qui n'est pas non plus la même que celle qu'on a l'habitude de voir dans les grands magasins de vélos, entre guillemets.
Et bien justement, on parlait de matériaux, et bien on a notre troisième invité qui lui fait des vélos en bambou. Je pense que ça serait bien qu'il nous explique un petit peu.
Moi, je fabrique des vélos sous la marque Gamoricycle. Donc je fabrique les mêmes objets que Coca ou que Kidam. Mais la petite particularité, c'est que le cadre, il est assemblé avec des tubes qui sont en bambou au lieu d'être des tubes en acier.
Donc pas de soudure sur bambou alors ?
Eh non, il n'aime pas trop être chauffé à 800 000 degrés le bambou.
Ah bon, d'accord, ok.
Donc on va utiliser d'autres techniques qui sont plus des assemblages avec des collages ou avec des renforts en composite et qui va permettre d'avoir des pièces en composite aux assemblages et de garder vraiment le bambou sur les tubes. Et donc ça a un petit côté magique, c'est que le bambou, bah, c'est un matériau qui pousse tout seul dans la nature, déjà sous forme de tube. Donc on a juste à le récupérer et puis à l'assembler pour faire un cadre. Il y a très peu de transformation. Ça prend quand même du temps, mais voilà.
Quelles parties du vélo peuvent être en bambou ? Parce qu'il n'y a pas que le cadre. J'ai vu qu'il y avait aussi les trucs pour attacher les petites tiges pour tenir le garde-boue. Par exemple, il y a quoi encore ?
Plus je travaille avec le bambou, plus je découvre que c'est un matériau qui est génial et qui permet en fait de faire plein de choses. Donc au début, j'ai commencé par fabriquer que les cadres. Après, je me suis mis à fabriquer des fourches aussi en bambou. Là, je commence à fabriquer également des porte-bagages. Sur le dernier vélo, j'ai fabriqué aussi les tringles des garde-boue en bambou. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à le travailler de plein de manières différentes, à le refendre, à le raboter, à en faire des baguettes. Et même quand on regarde dans le mobilier de maison, et ben en fait, si on regarde de près, il y a de plus en plus d'objets qu'on pense qu'ils sont en bois et si on regarde de très près, en fait, c'est du bambou. Quoi.
Mais c'est un matériau qui est vivant. L'acier, une fois que c'est fait, ça bouge pas trop, mais enfin, ou ça bouge peut-être moins que le bambou. Le bambou, ça doit un peu se dilater.
Et non, alors le bambou, en fait, donc tant qu'il est planté dans la terre, eh ben, il va vivre sa vie, il va pousser, etc. Et en fait, on dit souvent qu'il arrive à maturité au bout de 3-4 ans. C'est un matériau qui pousse hyper vite.
Ouais.
Et donc, une fois qu'il a maturité, ben, on peut le couper. Et donc on le coupe, on le laisse sécher, et une fois que le bambou est séché, et ben vraiment il devient complètement stable.
Ok.
Donc il va plus bouger quoi.
Ça prend quoi, un an à sécher un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est des temps de séchage d'environ un an, ouais.
Ok.
Ouais. Et donc c'est vraiment, moi j'ai une volonté de faire un séchage qui est vraiment naturel, c'est-à-dire séchage à l'air libre. Il y en a qui vont le passer sous des étuves, etc. Ça va faire un petit peu des contraintes violentes dans le matériau. Moi je préfère le laisser sécher vraiment un an à l'air libre. Et là je suis sûr que les chaumes que je récupère qui n'ont pas de défaut au bout d'un an de séchage, elles ne bougeront
c'est
plus
bon
du
quoi.
Tout.
Ouais.
Tu as toujours cadré en bambou ou tu viens de...
Ouais, et c'est ça qui est rigolo. J'ai des connaissances dans les matériaux composites. J'ai commencé par fabriquer des vélos en bambou en me disant bon bah peut-être qu'un jour je passerai à l'acier quand même parce que je m'imaginais être assez bloqué dans certaines formes avec le bambou. Et en fait, plus je l'ai travaillé, plus j'ai réussi à mettre en place des solutions pour avoir aucun verrou pour la fabrication de cadres. Et donc j'arrive vraiment à tout faire. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, bah, je fabrique que des vélos en bambou et je reste vraiment sur schéma. Quoi.
Et c'est tout intégré, hein, parce que tu fais pas que les vélos, tu fais également les sacoches, tout ça, tu rigoles
ouais,
pas.
Ouais, alors moi, c'est vraiment la volonté de pouvoir faire des vélos sur mesure de A à Z. Et en fait, je me dis, ben, effectivement, faire un beau vélo, c'est chouette. Mais souvent, les gens qui veulent se faire un beau vélo, ils veulent aussi avoir les sacoches qui vont sur le vélo, ils veulent aller plus loin. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir proposer aux gens ben, les sacoches qui vont vraiment également être faites sur mesure sur le vélo, qui vont parfaitement s'intégrer au cadre, qui vont être vraiment réfléchis, genre d'avoir une réflexion d'ensemble, quoi. Pas se dire on fait un vélo et par-dessus on rajoute des sacoches. C'est qu'en fait les sacoches, ça fait vraiment partie de la réflexion d'ensemble du vélo.
Et comment on fait tous les trois pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, l'internet, tout ça?
Moi j'ai mon site internet Gamorycycle. Et j'essaie d'être un peu présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas mon fort.
Pareil, moi j'ai mon site internet Quoka, Quoka Cycle au pluriel.com.
Et moi du coup, je suis en train de faire mon site, mais pour le moment c'est sur Instagram et Facebook.
Bah merci à vous.
Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo.